Puis elle n'est pas de plus sa signification, donc elle est aussi presque rituelle. En profitant de ces derniers jours, pour nous réjouir, pour fraterniser, et aussi pour tisser des liens amicaux. C'est précisément le thème de mon sermon de ce jour, qui s'intitule Abraham, l'ami de Dieu. Quel grand honneur que cet homme mortel, physique, limité, ait été appelé par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, son ami. Nous verrons comment s'est installée cette véritable amitié et quelles en sont les principales composantes. Au cours de notre vie, nous avons déjà rencontré beaucoup de personnes et nous en rencontrerons encore d'autres. Tous ces milliers d'individus deviennent des connaissances. Et parmi celles-ci, très peu deviennent de vrais amis. Et très souvent, après cette sélection, on peut encore avoir des surprises en découvrant ce qu'on appelle vulgairement le faux jeton. Et cela produit sur nous le même effet lorsque nous trouvons une pièce de monnaie dans notre portefeuille, une fausse pièce, pour un faux billet, pour sa grosse déception. Alors, qu'est-ce qu'au juste un ami? Qu'est-ce que l'amitié? Le dictionnaire français Larousse répond à la première question. Je cite, personne avec qui on est lié d'une affection réciproque, ou personne qui a de l'attachement, du goût, ou quelque chose. Deuxièmement, l'amitié, toujours, dans le Larousse, c'est aussi un attachement mutuel, un témoignage d'affection, synonyme affection, camaraderie, tendresse, ainsi de suite. Dans le livre de Genèse, Dieu est entré en contact, nous l'avions tout à l'heure, avec Abraham. À l'époque, il n'est pas encore converti. À cette reprise, cela s'est produit. La toute première fois, lorsque il fut appelé à sortir en dur, en cadé, ou chadé, comme vous voulez, nous serons au pays de Canaan. Reportez-vous maintenant à Genèse, chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous lisons au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham, il dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Puis Dieu apparut une seconde fois à Abraham près de Shechem, pays de Cananéen. Donc la toute première fois, je reprends au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la première fois, la deuxième fois que nous devons le dire. Et la troisième fois, l'Éternel lui apparut. Après qu'il fut séparé de l'autre. Prenez le chapitre suivant, chapitre 13, au verset 14, nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alors, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. On nous promet, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Regardez le nombre d'individus qu'il y a sur cette terre. Depuis la création d'Adam, imaginez-vous que tous ces gens reviendront un jour. On ne peut pas les compter humainement parlant, mais Dieu sait qu'ils seront comme la poussière de la terre, aussi nombreux que la poussière qu'on ne peut pas compter. Donc ces individus seront nombreux lorsque le royaume de Dieu, le plan de Dieu sera établi sur toute l'humanité. Lors du renouvellement des promesses faites à Abraham, dans Genèse chapitre 15, dans le renouvellement de ces promesses, nous lisons au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Nous plongeons au verset 22, parce que tout le chapitre va parler entièrement. Je vous prie de le relire à la maison, éventuellement. Donc, Dieu a dit à Abraham, verset 19, le pays des Kéniens, des Kéniens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens. Tous ces pays lui appartiendront. Ils l'auront en héritage. Il s'adressa encore à Abraham dans une vision. Donc, puis Dieu changea les noms d'Abraham et de Sarai lors d'une apparition. On peut le lire dans Genèse, chapitre 17. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Verset 22, « Lorsqu'il a achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham et tout ce qu'il avait acquis a pris l'argent, tous les mâles parmi les jeunes de la maison d'Abraham et les circoncis, ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Poursuivons dans Genèse, toujours dans Genèse chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, il regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Vous avez vu comment Dieu est apparu à plusieurs reprises à Abraham. Ce qui est important de le noter, c'est que le dialogue s'est instauré entre eux et l'amitié s'est installée. Et lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre, il y a eu, comme je le disais, un dialogue entre eux. Enfin, Dieu avait testé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils d'abord pour savoir s'il lui obéirait. Monsieur Duval a parlé hier de la foi d'Abraham, dont nous sommes les fils spirituels. Donc, en s'inspirant de cette rencontre de Dieu avec le patriarche, nous pouvons déterminer cet ingrédient qui entre dans la composition d'une solide amitié. Le premier ingrédient, c'est l'harmonie. En effet, nos meilleurs amis sont ceux qui s'accordent avec nous sur le plus grand nombre de questions importantes. Les divergences d'opinion ou de goût, les frictions à répétition qui en découlent ne sont pas de nature à favoriser une amitié à long terme. Le prophète Amos pose la question suivante. Rendez-vous à Amos. Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, nous lisons au verset 3. deux hommes mortis ensemble sans s'être concertés est un principe primordial. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a des idées divergentes ou bien qui est toujours une tendance à établir entre nous des relations vraiment tapageuses. Donc deux hommes qui marchent ensemble, c'est des hommes qui s'accordent. Deux individus qui font ensemble sur une longue distance doivent être entièrement d'accord sur leur destination, sur le but à atteindre et surtout la direction à prendre. S'il n'y a pas d'entente précise là-dessus, ils ne pourront marcher en harmonie. Ceci est valable dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le mariage, dans la vie professionnelle. Abraham a marché avec Dieu, ce qui signifie qu'il était en tout point en accord avec son Créateur. On peut dire aussi qu'il était sur la même longueur d'onde que son Créateur, puisqu'il a obéi à sa voix, qu'il a observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Rendez-vous maintenant à Genèse chapitre 26. Revenons à chapitre 26 de Genèse. Genèse chapitre 26, on peut lire à partir du verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc Abraham n'a pas suivi les voies du monde de son époque. La Bible appelle amour du monde le fait d'être en accord avec les voies et les mauvaises pensées de ce monde. Et même l'apôtre Jacques l'a écrit dans son épître, le premier roi Jacques, chapitre 4. Donc vous voyez qu'au fil des années, le principe de la loi de vie n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, c'est encore valable. Jacques, chapitre 4, il est écrit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, Abraham n'était pas l'ami du monde dans lequel il vivait. Il en était sorti, préférant devenir l'ami de Dieu. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 12, verset 3, où pour la toute première fois, Dieu rencontra Abraham et lui demanda de quitter son pays. Il était alors âgé de 75 ans. Il avait déjà pris quelques habitudes au cours de cette vie et il a obéi à Dieu sans se demander, sans se poser de questions. Alors, Nimrod, dans le chapitre précédent, avait représenté une voie contraire au mode de vie divin. Abraham allait symboliser une autre voie bien différente. L'accent sera mis à partir du chapitre 12 sur un individu et ses descendants, et cela pendant les 2000 ans qui suivront. Dur, en cadet, Dieu ordonna à Abraham, toujours dans le chapitre 12, verset 1, je crois que je vous ai évoqué, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Si Abraham fait des instructions, Dieu lui promit de faire de lui une grande nation, de bénir en rendant son nom grand. Et c'est la toute première rencontre, comme je l'avais dit, avec Dieu. Donc c'est la promesse à laquelle Nimrod avait tant aspiré. Avoir un grand nom, il avait aspiré à avoir un grand nom sur terre, mais sans l'aide de Dieu. Abraham deviendrait également le père d'une grande nation qu'il bénirait. À ce moment-là, lorsque la demande lui a été faite, Abraham ne savait pas de quel pays il se rendait. Au nom Hébreu, chapitre 11, qui sortit de cela. Hébreu 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Est-il parti sans savoir où il allait? Donc c'est par la foi qu'il devait s'établir la terre promise comme des une terre étrangère, habitant sous des tentes, ici qu'Isaac et Jacob. C'est une très bonne signification. Lui, habiter sous des tentes, nous sommes dans des habits provisoires, ce que nous célébrons encore pour fête devant l'Éternel. Si Abraham, ce fut la promesse à laquelle Nimrod avait s'inspiré. Donc Abraham devient également une grande nation, comme nous venons de le voir. Alors donc, pour nous, l'exemple, nous devons nous inspirer cet exemple-là. Cette attitude de soumission, d'obéissance qu'Abraham avait à l'égard de son Créateur. Comme c'est lui le Père de la foi, nous devons demander à Dieu de nous donner la foi pour pouvoir lui obéir sans discuter. Cette attitude de foi et d'obéissance, il est parti, comme je le disais, sans savoir où il allait. Ce n'est pas la tabou si on nous posait la question. Je me mettais devant ce dilemme. Donc, il était accompagné de sa femme, Sarai, son épouse, Lot, le fils de son frère, en défunt, et de leurs serviteurs. Ils se rendirent à Canaan jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Nous avons lu dans verset 7, chapitre 12, l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Donc, vous y allez, c'était la première mentionne l'alliance abrahamique. Et cela devient aussi une coutume lorsqu'il a bâti un hôtel pour l'Éternel. Cela devient une coutume pour les patriarches de bâtir un hôtel chaque fois que Dieu leur apparaissait, leur parlait. Au verset 8, toujours dans chapitre 12, ici on lui a habité, il dressa cet arbre et il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel, qui était en route vers l'Égypte, à ce moment-là. Après être entré dans le pays de Canaan, la terre promise, Abraham a mené une vie de nomade, qui fut le symbole de sa nouvelle vie de ce monde, de sa relation avec son Créateur, en opposition, je le disais, à Nimrod, qui construisait ses propres villes, et en défiant Dieu. Abraham était dans l'attente d'une ville spirituelle que Dieu allait construire afin de suivre, de vivre selon les voies divines. Il n'était donc pas parfait de ses voies, c'est un être humain. Alors, il commençait tout juste à apprendre à faire confiance à Dieu. Il voyageait pour se rendre en Égypte afin d'éviter la famine en Canaan, comme nous le raconte, reportez-vous à Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Il est arrivé une mésaventure, vous voyez sa façon qu'il agit. Genèse, chapitre 12, on va voir, il y a pas plus verset 10. Il y eut une famine dans le pays le pays d'Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens le verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, que je sois bien traité à cause de toi, que mon âme vive grâce à toi. » Alors, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, donc lui l'approcher. Alors, Sarai, selon les conseils de son époux, fait passer pour sa sœur. Et finalement, les Égyptiens se sont rendus compte de ce mensonge. Au verset 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, sa femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, au verset 18, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déparé par cette femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Ou si l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Comme vous venez de voir, Abraham n'était pas parfait. Il se sentait en danger. Il a dû mentir pour se sortir de l'affaire. C'est une situation très difficile, comme le fait n'importe quel homme non converti. L'apôtre Pierre a eu aussi la même réaction lorsque le Christ s'est fait arrêter. Il a renié le Christ. Donc sur le plan spirituel, comme nous pouvons le voir, avec l'Esprit de Dieu, on doit affronter les difficultés avec l'aide de Dieu. On n'a pas besoin de mentir non plus pour s'en sortir. Abraham, tout comme l'apôtre Pierre, n'était pas encore converti à l'époque. Donc sur le plan spirituel, c'est à nous de ressortir du monde qui nous entoure, penser et marcher en harmonie avec notre Créateur. Portez-vous maintenant à Jean. Jean chapitre 17. Je fais mention de quelques versets. Mais tout le chapitre 17 fait mention de ce monde dans lequel nous devons sortir. Ce mot est mentionné une vingtaine de fois dans ce chapitre. On peut lire à partir du verset 14, Jean 17, verset 14. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Rappelez-vous, c'est le Christ qui parle. Ne te prie pas d'aller jeter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Comme je ne suis pas du monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par eux. Plus loin, il dit, je redonne ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc l'apôtre Jean, dans sa première épître également, première épître verset 15, nous exhorte à sortir de ce monde. Reportez-vous la première épître de Jean, verset 15. Oui, voilà. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de son de Dieu demeure éternellement. Nous allons maintenant passer au deuxième élément, celui de finalité, la faculté de pouvoir se confier. Les meilleurs amis sont ceux à qui nous pouvons nous confier sans craindre d'être trahis. On peut leur faire part de nos problèmes, tout en étant certain d'être écoutés, compris, et qu'ils seront pensés à nous dans leurs prières. Nous pouvons considérer Jésus-Christ comme notre meilleur ami. Cette relation d'amitié profonde, il n'y a aucune place pour le secret. Comme il est précisé dans Jean chapitre 15, au verset 15, je vais à peine le vous dire porter. Il dit, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les meilleurs amis ne sont pas uniquement les individus à qui nous pouvons nous confier, mais aussi ceux qui peuvent aussi se confier à nous, sans crainte. Cette attitude de confiance ne doit pas être à sens unique, mais réciproque. Et c'est cette sorte de relation que nous devons avoir avec Dieu. Il se confie à nous par sa parole, par son esprit, et nous, nous confions lui par la prière, nous lui parlons à cœur ouvert, en entrant dans tous les détails, pour lui faire connaître nos besoins. Prenons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. On peut lire avec le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par vos prières et vos supplications, afin que les actions de grâce, avec les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Abraham avait ouvertement parlé à Dieu, comme cela est relaté dans plusieurs récits bibliques qui décrivent certains événements de sa vie. Il était sincère, Abraham. Il parlait à Dieu à cœur ouvert. Rappelons-nous dans Genèse chapitre 18, que s'y reporter Genèse 18, ce dialogue. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorre, c'est très intéressant de voir comment il a expliqué à Abraham ce qu'il devait faire. Genèse chapitre 18, on peut lire au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison afin de garder la parole éternelle en pratiquant la droiture et la justice, pour qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Au verset 17 maintenant. Abraham dit, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis pour et sans. Il continue, poser des questions, peut-être les comme juste un nombre à fixer, poussé. Et tu as toute ta ville. L'Éternel dit, je ne la détruis pas si je vous parle, c'est juste. Donc, c'est une intercession qu'Abraham faisait en faveur de Sodome, de mort pour l'Éternel. Ce sixième dialogue entre Dieu et Abraham témoigne de la relation amicale entre deux. Il n'y a pas de cachotterie, pas de secret entre eux. C'est de vrais amis. Cette alliance entre Dieu et Abraham sera réitérée au chapitre 15, où il lui a montré dans une vision sa descendance, malgré le fait que Sarai était stérile et qu'Abraham se faisait vieux. Au nom de Genèse chapitre 15, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis prompt pour prier, ta récompense sera très grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, il est ici dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Donc Abraham va voir les choses à sa façon. Mais Dieu lui dit, autrement. Au nom de verset 21. Verset 17. Quand le soleil était couché, d'une obscurité profonde, et voici ce qu'une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, il y avait aussi une sorte de sacrifice qui était effectué à ce moment-là. Donc, on voit que l'alliance entre Dieu et Abraham était vraiment réelle. Et ce fut la quatrième fois que Dieu entra en contact avec Abraham. Et il appelait Seigneur Dieu. Alors, toujours sans enfant, Abraham lui rappela sa promesse. Il lui dit de regarder le ciel et de compter les étoiles, s'il le pouvait. Et c'est l'une des trois façons divines de décrire la postérité des patriarches. L'autre étant la poussière de la terre, dans Genèse chapitre 13, verset 16, et le sable. Chapitre 22, verset 17, notez simplement. Or, cette année, parenthèse, cette année pour la fête des pères, nous avons reçu, tous les papas, à la congrégation, une fiole de sable en provenance des multiples plages de la Martinique. Ceci afin de symboliser notre postérité à venir. C'est très symbolique. Revenons à Abraham. Dans Jacques, chapitre 2, verset 23, voilà la réponse d'Abraham, fils de lui. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 2, plutôt, verset 23. Jacques, chapitre 2, verset 23, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham coûte à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu, comme nous l'avons vu au début. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il a manifesté par ses œuvres sa foi en Dieu. C'est pas contenté de dire qu'il croit en Dieu, mais il a manifesté par ses œuvres. Voilà le troisième élément fondamental pour édifier une solide amitié. Il faut aussi être digne de confiance. vous ai dit, et je le répète, un ami est une personne sur qui on peut compter. Notez la promesse que Dieu nous a faite dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous devons nous souvenir de cette promesse, surtout lorsque les grandes difficultés, et bien lorsque nous avons affronté de grandes épreuves, Dieu a fait une promesse, il ne ment pas. Il n'est pas agréable de supporter les épreuves de la vie, mais Dieu est avec nous, il nous a promis de ne pas nous abandonner. C'est en sortant de cette épreuve que nous nous rendons vraiment. Il nous soutient. Nous lui rendons gloire pour cela. De ce fait, nous pouvons avoir une entière confiance en lui. Il veut aussi être sûr que nous ne l'abandonnerons jamais. Ton comportement face aux épreuves, aux difficultés de cette vie, doit être pour Dieu une indication qui lui démontre jusqu'à quel point il peut compter sur nous. Il veut savoir s'il peut se fier à nous avant de nous rendre immortels, de nous confier de grandes responsabilités dans le monde de demain, représenté par la fête des tabernacles que nous célébrons aujourd'hui. Portez-vous maintenant à Luc, prenons Luc chapitre 16. C'est à travers les épreuves que Dieu nous teste. Je vais voir comment nous réagissons, si nous lui faisons confiance, et si nous pouvons régler les problèmes par nous-mêmes. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle à la richesse injuste, qui vous confiera les véritables? C'est là notre terrain d'entraînement. C'est dès maintenant que nous devons agir pour former ce caractère que Dieu veut trouver en nous. Nous travaillons également pour l'avenir, pas pour le sein immédiat. C'est un apprentissage. Continuons verset 12. Et si vous avez été fidèle dans ce qui est accompli, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il aille à l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il est à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, on ne peut pas servir Dieu, il faut vraiment sortir du monde, pratiquer ses œuvres, lui obéir, et ne pas prétendre lui obéir tout en restant dans le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir de Dieu à la fois. Alors, si dès maintenant nous ne sommes pas capables d'être loyaux envers lui, nous ne pourrons l'être plus tard. Il est fort probable que de toutes les actions d'Abraham, c'est son empressement justement à exécuter l'ordre que Dieu lui avait donné, de sacrifier son fils, cet empressement qui a fait de lui le véritable ami de Dieu, parce qu'il lui a fait entièrement confiance. C'est ce raison qu'il a dit ainsi. Prenons maintenant Néhémie. Portez-vous maintenant à Néhémie. Néhémie chapitre 9. Disons à partir du verset 8. Tu trouvas. On peut lire à partir du verset 6, la meilleure compréhension du verset. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux. Les cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers Et tout ce qu'elle enferme, qui donne la vie à toutes choses, qui l'a remis des suites à l'or. C'est toi, l'éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner sa postérité à sa postérité le pays de Canaanéen des Tiens, des Amoriens. Fin du verset. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Voyons la quatrième composante essentielle, l'amitié. L'amitié aussi se compose de la loyauté. Nous savons aussi qu'il existe des amis de beaux jours. Quand tout va bien, ils apprécient beaucoup les relations amicales. Mais dès que surgit cette difficulté, que vous leur demandez de l'aide, ils sont toujours trop occupés pour vous répondre, pour qu'on a votre appel. Voici une anecdote qui illustre cette attitude. Je cite, deux vrais amis, deux vrais faux amis, disons, se promenaient en forêt. Tout à coup, ils voient venir vers eux un ours, un gros ours. Alors, pris de panique, l'un d'eux court se réfugier dans un arbre en abandonnant votre ami à son sort. Alors, celui-ci n'ayant pas la force de courir, il s'allonge sur le sol en faisant le mort. Il avait entendu dire que les ours ne s'attaquaient pas au cadavre. Alors, l'ours s'approcha de lui, le reniflait de la tête aux pieds, puis l'animal s'attarda avec sa tête. Quand il renouvelait, il a retenu sa respiration. Voyant que l'ours s'éloignait, l'autre homme descendit de l'arbre et se dirigea vers son compagnon, lui demandant ce que l'ours lui avait murmuré à l'oreille. Et l'autre de répondre, l'ours m'a dit, ne te promène jamais avec quelqu'un qui se dit être ton ami, lorsque tout va bien et qu'il t'abandonne dès que tu es en danger. Je me suis laissé dire qu'avec un ami comme celui-ci, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà. Alors, dans une famille aussi, il arrive parfois qu'il y ait des querelles entre frères et sœurs, mais dès qu'un danger extérieur survient, ils se protègent entre eux. Et même s'ils peuvent reprendre leur querelle une fois le danger passé, au moins ils sont solidaires. Salomon a déclaré que les liens d'une amitié sincère sont plus forts que ceux de la chair. Portez-vous maintenant au Proverbe, verset 17. Proverbe, verset 17. Disons verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Toujours dans Proverbe, verset chapitre 18. Disons verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors, beaucoup de gens préfèrent vivre seuls car ils n'ont pas de véritables amis. Certains font ce choix par suite de déception, de trahison. Donc de vrais amis doivent être loyaux les uns envers les autres, quelles que soient les circonstances. Facile, pas. Ils doivent se soutenir mutuellement, se sacrifier les uns pour les autres. Reportez-vous maintenant à Jean. Voilà ce que dit le Christ. Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 13 plutôt. Jésus-Christ qui parle, il n'y a pas de plus grand, Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Jésus-Christ a décrit par là le plus haut niveau d'une amitié sincère. C'est bien. Il nous a montré l'exemple en parcourant le chemin avant nous. Alors, si nous voulons être ses amis, nous devons marcher avec lui en prouvant notre loyauté envers lui. Ce qui dit au verset 7, 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, il y a une condition. Donc, notre loyauté envers Dieu peut être mise à l'épreuve lorsque ce qu'il nous commande n'est pas conforme à notre raisonnement humain. Abraham a vécu une telle situation lorsque Dieu lui a demandé, lors de sa 7e rencontre, de sacrifier son fils unique. Dieu a pu trouver de nombreuses raisons de ne pas le faire. Il voit sa place. Il était bien à l'aise à l'origine. Il savait que tuer un être humain constitue un péché. Donc Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Et puis, ça dépassait son entendement, mais il a fait, il a obéi à Dieu. Il savait que s'Isaac mourait, comment Dieu, je dis bien, il savait que s'Isaac mourait, comment Dieu pouvait-il bénir ses descendants? Alors que Isaac, c'est son fils, Isaac peut partir la descendance. Alors s'il mourait, comment Dieu va faire? Il a fait comme il a obéi à Dieu. Il a simplement exécuté l'ordre que Dieu lui avait donné. Donc il a donc fait preuve de loyauté envers son Créateur. Il a démontré sa foi par les œuvres qu'il a accomplies, comme nous venons de le voir dans Jacques, chapitre 2, verset 23. Je reprends sur ce verset, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham coûte à Dieu. Et cela lui fut la justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il y a le cinquième élément composé de cette amitié. Il s'agit de la franchise. Dieu n'aurait jamais pu considérer Abraham comme son ami si celui-ci avait fait preuve d'hypocrisie ou de fougerie. Pour te voir Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons nous verset 23. De mort, ses enfants et toutes les églises connaissant le souci qui sont les reins et les cœurs, enfin, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Donc, là, il n'est pas question d'hypocrisie, puisque Dieu sonde les cœurs et les reins. Revenons à Abraham qui parlait librement à Dieu. Nous aussi, nous devrions faire de même en lui parlant à cœur ouvert, faisant connaître tous nos besoins, comme l'a écrit l'apôtre Paul, ce que nous venons de voir dans Philippiens, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Dieu pouvait dire qu'il connaissait Abraham, car celui-ci n'était pas comme ceux dont parle Jésus-Christ, qui est une religion de façade, qui parle beaucoup de Dieu sans jamais parvenir à le connaître. Le jour viendra où Jésus-Christ le dira, je ne vous ai jamais tenu. Donc, la franchise doit être la base des relations amicales. La vie est loin d'être un fleuve tranquille. Nous avons tous besoin d'être conseillés, surtout avant de prendre des décisions importantes. Prenons maintenant Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il faut toujours prendre conseil, de bons conseils. Donc, là, il ne s'agit pas de conseiller vers n'importe qui, des amis sincères, des francs, qui ont attesté la fiabilité. Même plusieurs avis peuvent être favorables. Donc, c'est entre gens sincères, équilibrés, et qui font preuve de discernement. Voyons le sixième élément, la fidélité. Toujours une amitié vraiment dure par le temps. La fidélité. Donc, c'est un autre élément qui consolide l'amitié dans le temps. Très souvent, les années qui passent érodent les liens amicaux qui prennent souvent naissance dès l'enfance ou l'adolescence. Dans cette période difficile, on n'a aucune expérience de la vie. De ce fait, il est très difficile de choisir ses amis. Les exceptions sont aussi souvent fréquentes. Donc, un ami fidèle se déploie pour venir au secours de ses amis. Un bel exemple de fidélité nous est donné par Jonathan lorsque Saül, son père, cherchait à tuer David. Reportez-vous maintenant à Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, au chapitre 20. Ils ont porté du verset 4. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. » Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre-toi donc ton affection, montre donc ton affection pour ton serviteur, une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crument de moi, porte-moi la vie toi-même. Alors pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père, il ne m'a pas atteindre. Il y avait une amitié profonde et sincère entre David et Jonathan. Et Jonathan savait bien qu'il risquait sa propre vie protégeant son ami David. Continuons verset 30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Alors, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à son père, à sa vie son père, et lui dit, pourquoi le feras-tu mourir?
Qu'as-tu fait?
Saül se dirigea à l'avance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Se leva de table d'une ordre de colère, il ne partit point au repas le second jour de la nouvelle lune. Car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Si Saül a brandi sa lance contre son fils, c'est pas David qui l'aurait épargné. Donc, David était vraiment conscient du danger pour David. Donc, la fidélité aussi, comme je viens de l'attester, c'est un trait de caractère que Dieu veut que nous possédions. Lorsqu'elle fait défaut, les conséquences peuvent être très graves. Le roi Saül l'a fait l'expérience. Non seulement il en est mort, mais il a perdu sa royauté. Le septième élément est basé sur le bon choix de ses amis. Comment ne pas parler de Naomi, qui voulut renvoyer ses époux dans leur pays d'origine, après la mort de leur époux respectif, mais Ruth refusa de partir et choisit de rester auprès d'elle. Naomi était une très belle, était une belle-mère prévoyante, altruiste, se souciant davantage du bien-être de ses belles-filles. Pour nous maintenant à Ruth. Ruth chapitre 1, juste avant Samuel. Chapitre 1, verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos de la maison de Marie, et elle était là. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, oh non, nous irons avec toi vers ton peuple. À première vue, Ruth et sa belle-mère n'avaient pas grand-chose en commun. Elles n'avaient pas le même âge, ni la même culture, ni la même religion. De plus, Naomi était la belle-mère. Et vous connaissez tous les plaisanteries de mauvais goût qui sont faites à propos de ce genre de relation. Mais Ruth et Naomi aimaient le même homme, Kildijon, qui était le fils de Naomi, le premier époux de Ruth. Lorsque Kildijon mourut, leur relation devient encore plus profonde. À présent, Naomi était une femme avancée en âge et seule au monde. Ruth décida de rester près d'elle malgré les recommandations de Naomi de revenir de son pays d'origine, le pays de Moab. Et tout au long de cette histoire, les deux femmes restèrent de fidèles amies. Elles partagèrent tout malgré le fait qu'elles n'avaient pas grand-chose. Elles se faisaient confiance et partageaient sagesse et énergie. La femme âgée, comme on l'appelle aux Antilles, une grande personne, conseillait la jeune femme qui écoutait et appliquait ses conseils. Ensemble, ils ont triomphé de l'adversité. Comme vous le savez, une amitié profonde requiert du temps avant de festerer durablement dans le temps. L'une des raisons pour lesquelles Ruth a choisi de rester auprès de sa belle-mère, le mode de vie qui découlait de sa relation avec Dieu. Poursuivons, verset 16. Oui, je répondis, ne me presse pas de te laisser et 就我从这里问的话，不具有基于拒绝没有吧，觉得没有为ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Où tu auras joué, j'y serai enterré, et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de séparer de toi. Naomi, avant de décider d'aller avec elle, elle cessa d'insister auprès d'elle. Ruth avait fait un choix sage, en restant auprès de sa belle-mère, puisque Dieu l'a béni, devenant la arrière-grand-mère, la arrière-grand-mère du grand roi David. La décision de Ruth, comme l'a dit M. Walsh, est un bel exemple de loyauté, je dirais même de fidélité, car il s'agit là des deux faces une même médaille, la fidélité et la loyauté, ça va le faire. Nous sommes tous des êtres faillibles et ont tendance à nous fier aux apparences. L'exemple de l'autre est là pour nous le rappeler. Prenons Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. L'autre qui voyage avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car le bien était considérable, et si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers, les troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc Lot décida de s'établir dans la vallée, laissant les montagnes à Abraham, Bethel, dit fertile. Puis les montagnes étaient à Abraham. Exactement là où se trouvaient les terrains magnifiques, mais aussi les deux villes de Sodome et de Gomorre. De faire de beaux choix tout dans notre vie, nous prions Dieu aussi toujours pour qu'il nous guide, pour que nous ne fassions pas d'erreurs, de grosses erreurs qui peuvent porter vraiment préjudice à notre vie. Il faut qu'il nous guide sans cesse et demander vraiment la sagesse et le discernement en toutes choses. Dans tous les aspects de la vie, comme je l'ai dit à quelques instants. Alors, avant de conclure, voici un poème sur l'amitié que j'ai appris il y a fort longtemps, et dont je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Sans importance. Je lis. L'amitié. L'amitié, c'est une écoute quand le cœur est en déroute, qui jamais ne se permet de juger ou de peiner. Elle peut toujours, elle peut tout partager de nos joies et de nos secrets. Que ce soit la nuit, le jour, elle vole à notre secours. Impalpable comme le vent, fort comme l'océan. L'amitié, c'est de l'or, comme l'or, comme le trésor. Dieu nous a appelés, une citation de lui. Dieu nous a appelés à partager ce type d'amitié avec lui. Il a fait de chacun d'entre nous son ami, l'esclave d'Abraham. Nous devons premièrement marcher avec lui en harmonie, puis nous confier en lui. Troisièmement, être digne de confiance. Quatrièmement, être loyaux à son égard. Cinquièmement, être franc. Et sixièmement, être fidèle en tout temps. Septièmement, mesurer l'importance de faire le bon choix. Lors de cette rencontre qu'Abraham eut avec son Créateur, Dieu pouvait vraiment dire qu'il le connaissait. Abraham n'était pas comme ce dont parle Jésus-Christ, une religion de façade qui font beaucoup de choses, mais sans jamais parvenir à notre Dieu. Je cite Matthieu 7 au verset 23, le Christ l'a dit, il leur dira un jour, je ne vous ai jamais connu. Et cet avertissement nous concerne tous. Pourquoi compter sur nous si nous remplissons ces 7 conditions essentielles quand il doit trouver notre fidèle comme celui d'Abraham, son ami. Après notre fête des tabernacles en 2013, entraînons-nous à développer ce type d'amitié selon le modèle divin, sachant que c'est du travail, mais surtout un excellent entraînement de l'acquisition du caractère divin.